Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la Sainte Sourate Al-Baqara. Notre frère Boroumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à cent grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Très chers amis auditeurs, merci d'être avec nous en ce jeudi soir, 25 mars 2021. Nous allons vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Restez avec nous. Le représentant permanent de l'Iran près de l'AIOA a critiqué les positions non consultatives adoptées par le directeur général de cette agence sur l'accord nucléaire. Les forces d'occupation américaines ont fait entrer un convoi de véhicules blindés venant de l'Irak, chargés d'équipements et de matériel logistique, pour soutenir leur base dans la banlieue de Asaké en Syrie. Et au Sénégal, les élections territoriales de nouveau reportées. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le représentant permanent de l'Iran auprès de l'Agence internationale de l'énergie atomique, IAEA, a critiqué les positions non consultatives adoptées par le directeur général de cette agence sur l'accord nucléaire. L'ambassadeur d'Iran auprès des organisations internationales basées à Vienne, Kazem Ghalibabadi, a critiqué mercredi 24 mars le directeur général de l'AIOA, Raphaël Grossi, pour ses remarques non consultatives sur le plan global d'action conjoint. M. Ghalibabadi a fait ses remarques mercredi en réaction à l'interview de Grossi avec l'hebdomadaire américain Newsweek, dans lequel il a déclaré que des discussions détaillées et techniques sont nécessaires pour déterminer l'emplacement de l'uranium non déclaré en Iran et que la question est totalement liée à la renaissance de l'accord nucléaire, officiellement connu sous le nom du plan global d'action conjoint. Réagissant à l'interview accordée par Raphaël Grossi à Newsweek sur Twitter, Ghalibabadi a déclaré que l'adoption des positions plutôt politiques que techniques est non consultative et destructrice. Selon ce dernier, de tels entretiens consécutifs ne font que miner davantage la crédibilité de l'AIOA auprès de l'Iran et créer un sérieux obstacle au succès de toute initiative ultérieure du directeur général de l'AIOA basée sur l'interaction et la bonne volonté, a-t-il indiqué. Le plan global d'action conjoint est confronté à de nombreux problèmes. Il n'est donc pas nécessaire de le compliquer par des remarques étrangères, a précisé l'ambassadeur de la République islamique d'Iran. Les questions sont interdépendantes et la République islamique d'Iran ajustera ses étapes et ses interactions avec l'agence et le directeur général en tenant compte des autres questions, a souligné M. Ghalibabadi, déclarant que l'Iran continuait d'agir de manière transparente et coopérative dans le cadre de ses engagements, dans le cadre de l'accord de sauvegarde du traité de non-prolifération TNP. Téhéran n'accepte la levée des sanctions américaines que de manière vérifiable avant de revenir au plein respect de l'accord de 2015 portant sur le nucléaire civil de l'Iran. L'Iran dit qu'aucune négociation n'est nécessaire sur le retour de Washington au plan global d'action conjoint et que les États-Unis devraient d'abord lever toutes les sanctions que Trump a imposées à l'Iran avant que l'Iran ne revienne à la pleine conformité. Les forces d'occupation américaines ont fait entrer un convoi de véhicules venant de l'Irak chargé d'équipements et de matériel logistique pour soutenir leur base dans la banlieue de Hasaké en Syrie. Des sources locales de la zone de Souaïda ont indiqué à la correspondante de Zana que les forces d'occupation américaines avaient fait entrer un convoi composé de 80 véhicules, dont des camions et des camions-citernes et des camions frigorifiques via le poste illégal d'Al-Walid vers leur base dans la banlieue de Hasaké. Les sources ont souligné que le convoi était accompagné d'un certain nombre de voitures avec à bord des hommes armés affiliés à la milice des FTS, soutenus par les forces d'occupation américaines. Sachez également que deux civils sont tombés en martyr dans l'explosion d'une mine abandonnée par les terroristes Daesh à Tarit Salma, dans la zone de Wadi Azib, dans la banlieue de Salamiya. Une source du commandement de la police de Hama a indiqué qu'une mine terrestre abandonnée par les terroristes de Daesh avait explosé dans un motocycle à Talit Salma dans la zone de Wadi Azeib dans la banlieue de Salamiya, ce qui a fait un homme et une femme martyrs. La Syrie et la Russie ont affirmé la poursuite des efforts déployés pour le retour de la vie normale dans les zones libérées du terrorisme en Syrie et pour faire retourner les réfugiés et les personnes déplacées en dépit de grands obstacles à cause des mesures économiques et coercitives unilatérales imposées par l'Occident à la Syrie. Le ministre de l'administration locale et de l'environnement, Hossein Mahlouf, a fait allusion aux efforts déployés par l'État syrien sous les directives du président Bachar al-Assad pour garantir le retour digne des réfugiés après les victoires de l'armée syrienne sur le terrorisme et la stabilisation de la plupart des zones pour faire retourner les personnes déplacées à leur zone et mettre fin à la souffrance qu'elles vivent dans les pays de refuge. Mahlouf a souligné que l'État syrien continue d'octroyer tous les services nécessaires qui soutiennent le retour des réfugiés et des personnes déplacées à leur patrie en dépit des mesures coercitives unilatérales, notamment la soi-disant loi César et l'interdiction de l'accès des médicaments et des dispositifs médicaux à l'ombre de la pandémie de COVID-19 et de la poursuite des violations et des crimes commis par les deux occupations américaines et turques, en plus des agressions israéliennes. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a annoncé mercredi, lors d'une réunion avec son homologue allemand Heiko Maas, que Washington envisagerait des sanctions supplémentaires à l'encontre des entités impliquées dans le gazoduc Nord Stream 2. Berlin espérait que la nouvelle administration américaine dirigée par le président Joe Biden aurait une approche plus réaliste de Nord Stream 2, ont déclaré à Reuters des responsables diplomatiques et gouvernementaux allemands. Mais Blinken aurait exprimé à Heiko Maas l'inquiétude des États-Unis. Il a assuré que le gouvernement de Joe Biden était déterminé à respecter la loi adoptée en 2019 par le Congrès américain qui prévoit des sanctions pour les entités impliquées dans le projet controversé de gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne. Le mois dernier, le porte-parole du département d'État Ned Price a annoncé que les États-Unis accentueraient les sanctions contre le gazoduc alors que le chantier est presque terminé. Un groupe de 40 sénateurs républicains a écrit une lettre à Joe Biden estimant que le projet Nord Stream 2 était une violation flagrante de la loi américaine et ont appelé à davantage de sanctions. L'année dernière, la construction du gazoduc dans les eaux danoises au large de l'île baltique de Bornholm a été interrompue en raison des menaces de sanctions américaines. Maintenant, la construction a officiellement repris et est terminée à 93%. Arrivé à terme, le gazoduc transportera chaque année 55 milliards de mètres cubes de gaz naturel russe vers l'Allemagne. Le gouvernement sénégalais a décidé mercredi 24 mars en Conseil des ministres de reporter de nouveau les élections territoriale. Le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi portant sur le report des élections territoriales et la propagation du mandat des conseillers départementaux et municipaux, a indiqué un communiqué du Conseil des ministres sans préciser la date à laquelle la consultation électorale sera reportée. Cette décision intervient dans un contexte où le gouvernement a réuni des experts, la classe politique et la société civile pour réfléchir sur le processus électoral au Sénégal. Ces élections, initialement prévues en juin 2019, devaient théoriquement être organisées au plus tard le 28 mars 2021, après deux reports. Selon le ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des territoires, le Sénégal compte à ce jour 599 collectivités territoriales, 557 communes et 42 départements. Il s'est ouvert ce 24 mars à Niamey un forum international sur la paix et la stabilisation dans les zones de conflit et la lutte contre le terrorisme insurrectionnel dans le Sahel central et le bassin du lac Tchad. Présidant la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre Brigui Rafini a rappelé l'importance du thème choisi. Aujourd'hui, le défi le plus saillant au monde est le défi sécuritaire avec la présence des groupes armés terroristes et criminels dans le Sahel central et le bassin du lac Tchad. Ces groupes disputent aux États le contrôle des régions entières, particulièrement en zone rurale, a-t-il indiqué à cet effet. Le chef du gouvernement a ensuite détaillé le mode opératoire de ces groupes terroristes, notamment leurs usages systématiques de la violence et de la justice expéditifs et leur volonté manifeste de se porter en contre-exemple de la mauvaise gouvernance. Il a ensuite appelé les pays du Sahel et du bassin du lac Tchad à mutualiser leurs efforts en vue de venir à bout de cette menace. Le général Mahamadou Abou Tarka, président de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix, est allé dans le même sens que le Premier ministre. Pour vaincre le terrorisme insurrectionnel, a-t-il ajouté, les techniques du contre-terrorisme doivent être complétées par les leçons de la doctrine contre-insurrectionnelle, reconquérir et contrôler l'espace, protéger la population et rétablir l'administration dans toutes ses fonctions. Nous avons besoin de mobiliser à la fois l'État et la population, de renouveler et de renforcer le pacte républicain dans lequel l'État est au service de tous. Notons que depuis 2015, la région du Sahel et le bassin du lac Tchad font face à une crise sécuritaire sans précédent. Depuis le début de l'année, ce sont environ 250 personnes qui ont perdu la mort dans des attaques terroristes au Niger. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. La résistance sort-elle son arme suprême? La Maison-Blanche a déclaré dans un communiqué qu'elle reprendrait les pourparlers stratégiques avec le gouvernement irakien le mois prochain et qu'elle discuterait du prolongement du déploiement des troupes américaines en Irak. Évidemment, il n'y a pas trop de choix. À Mossoul, où les forces de Hacht al-Shaabi ont déclenché ce mercredi matin l'une des opérations les plus vastes que soit depuis que les États-Unis tentent de faire revivre Daesh en ramenant des terroristes et par des centaines depuis la Syrie voisine, avant que ces derniers ne se heurtent de plein fouet aux remparts d'acier de la résistance, une chose parfaitement inouïe vient de se passer. Des sources proches de la résistance ont publié les restes d'un missile de croisière furtif de type Storm Shadow. conçu pour frapper l'ennemi dans son territoire profond jusqu'à près de 400 km, voire même 560 km, quelle que soit la défense aérienne, grâce à sa furtivité qui le rend presque indétectable, y compris par les avions radars AWACS. Des sources occidentales ont tenté aussitôt de masquer l'info et de remplacer les photos de ce superbe missile furtif de 1300 kg par des photos de drones. Mais le mal a été fait. Escalp EG est une arme stratégique conventionnelle qui permet de frapper des cibles de grande importance loin dans le dispositif adverse. Certes, les British ont prétexté la lutte contre Daesh à Mossoul pour faire usage de cette arme, mais on sait effectivement que l'OTAN est sur le point de tester ce genre d'engin pour les employer contre la résistance. Surtout que les Américains, de l'aveu même des sources militaires irakiennes, ont très clairement dit et affirmé que la coalition ne prendra part à aucune opération impliquant les HAST et que les armes US ne devraient pas servir les HAST. Le missile a une masse de 1300 kg, un diamètre maximal d'un mètre et une envergure de 3 mètres. Sa portée officiellement de 250 km est en fait supérieure à 300 km et proche de 400 km et permet un tir à distance de sécurité. Ce missile de type tiré oblique est programmé avant le lancement. Une fois largué, sa cible ne peut pas être modifiée et il ne peut être ni contrôlé ni autodétruit. Sa mission est préparée au sol en définissant sa cible et les zones de défense adverses. Le missile suit une route de façon quasi autonome en vol à basse altitude en suivant le relief en utilisant le GPS et le recalage altimétrique. Et c'est un tel engin qui a été abattu à Mossoul, comme le confirment des photos mettant en scène les restes du missile. Mais avec quoi? Puisque Daesh est un agent direct des Américains, ce ne pourrait qu'être la résistance irakienne en possession d'une DSA capable de pulvériser un tel engin. Une DSA sophistiquée, anti-furtif, a-t-elle fait son entrée sur la scène irakienne? Pour la première fois depuis la tonitruante frappe aux 10 roquettes Arash 4 contre Ain al-Assad le 16 février, qui a coûté la vie, entre autres, à un officier US, la résistance irakienne a publié il y a 4 jours une rare photo de son arsenal. Le 20 mars, la brigade Raybar a partagé des photos de certaines de ces roquettes, ce qui semble être une nouvelle mise en garde contre les forces américaines en Irak. Le groupe a revendiqué l'attaque à la roquette du 3 mars contre la base aérienne Ain al-Assad dans la province occidentale d'Al-Anbar. L'officier américain tué, les Américains l'ont transformé en victime d'une crise cardiaque. Les photos publiées par les brigades Raybar montrent une roquette de 107 mm de fabrication iranienne, une roquette gratte 122 mm et un projectile plus gros du même calibre qui devait être une fusée Arash 4 de fabrication iranienne. Selon des sources irakiennes, la brigade Raybar a utilisé plus de 10 roquettes Arash 4 dans l'attaque contre la base aérienne d'Ain al-Assad. Mais ce ne serait sans doute pas les Arash 4 à l'origine de la destruction de Scalp British. Dans la foulée, l'administration américaine a annoncé qu'il reprendrait les pourparlers stratégiques avec le gouvernement irakien le mois prochain. Nous sommes impatients de reprendre nos pourparlers stratégiques avec le gouvernement irakien en avril prochain. Voilà ce qu'a indiqué un porte-parole de la Maison-Blanche dans un communiqué ce mercredi matin. Une annonce qui intervient sur fond d'un accord militaire signé avec Amman, lequel accord loue carrément le ciel, la terre et les mers du royaume aux États-Unis, en lieu et place de l'Irak.
Bonjour à tous. bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Le ministre chinois des Affaires étrangères est en tournée régionale. Et dans le cadre de cette tournée, le ministre chinois des Affaires étrangères est attendu à Téhéran, capitale iranienne, où il doit s'entretenir avec les autorités iraniennes, son homologue iranien Mohammad Javad Zarif, le président iranien Hassan Rouhani, des questions d'intérêt commun, des relations bilatérales, des évolutions régionale et internationale. L'importance de la visite en Iran du ministre chinois des Affaires étrangères réside dans le fait que Pékin et Téhéran sont sur le point de finaliser un accord de partenariat stratégique. Un accord de partenariat stratégique et d'une durée de 25 ans. Et dans le cadre en fait de ce partenariat, l'Iran et la Chine, qui entretiennent déjà des relations politiques, économiques et culturelles et de très très importantes, vont peaufiner, renforcer de plus en plus en fait de leur coopération bilatérale, tant au niveau bilatéral qu'à l'échelle internationale. Et cette visite à Téhéran du ministre chinois des Affaires étrangères intervient à un moment où la Chine, si vous avez suivi l'actualité, vous vous en êtes rendu compte, fait actuellement l'objet, si vous voulez, d'une rhétorique anti-chinoise du côté de l'Union européenne et également des États-Unis. Bon, on va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Moscou un analyste politique et spécialiste des questions internationales, Monsieur Fabrice Beur. Monsieur Beur, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, à vos téléspectateurs. Toujours un plaisir d'être sur votre chaîne.
Et merci beaucoup. J'ai également le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission un autre analyste de politique et spécialiste français des questions internationales qui est en ligne avec nous pour cette émission depuis Toulouse. Il s'agit de M. Pierre Dortiguet, philosophe français spécialiste des questions internationales. M. Dortiguet, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour et merci M. Navresti, ainsi que vos auditeurs, et bien naturellement mes meilleures salutations à M. Port, que j'ai plaisir à retrouver.
Merci beaucoup. Monsieur Dortiguet, on va entrer dans le vif du sujet, directement dans le vif du sujet. Quelle est l'importance de la visite du ministre chinois des Affaires étrangères en Iran, s'il vous plaît?
Eh bien, si on peut parler brièvement de l'intérêt, disons, de l'importance de cette visite, elle me semble être d'un mot stratégique. C'est-à-dire qu'elle est une sorte de protection que l'Iran peut avoir, doit avoir et aura contre les entreprises, disons, agressives qui sont dirigées contre lui. Je crois que ceci est un élément, disons, un élément de sûreté pour l'Iran. Il s'agit bien sûr d'un, comme vous l'avez dit, d'un partenariat stratégique de point de vue économique, bien sûr, mais je crois que je ne dis pas le sacrifice, mais disons la considération que l'on doit faire de la présence chinoise en Iran, qui est naturellement pour plusieurs années, certainement pour au moins dit-on avec des accords qui peuvent, disons, durer au moins une trentaine d'années, une bonne génération, et seront renouvelés, bien sûr, change quand même le rapport de force entre l'Iran et ses adversaires. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il y en a un autre, évidemment, qui est un peu plus large, dont on peut discuter, c'est que à travers la Chine, ce qui est paradoxal, l'opinion ne le sent pas toujours, il peut y avoir aussi de nouvelles relations avec d'autres pays. Vous avez parlé évidemment de la rhétorique anti-chinoise, qui est une rhétorique, vous savez, pas parce que qui ne va pas plus loin, de la part de l'Union européenne et de certains milieux américains. Il y a aussi des milieux américains qui sont liés à la Chine, et je pense que ceci peut nous réserver des surprises, voyez-vous, quant à l'évolution des économiques, à l'évolution des relations humaines et économiques entre l'Iran et d'autres parties du monde. Il ne faut pas croire que le monde est entièrement coupé d'un côté ou de l'autre avec un ancien camp communiste et le camp capitaliste. Non, il y a véritablement des liens, et l'Iran fait partie de ces liens. Je parle de l'avenir, bien sûr. Donc, pour répondre à votre question, M. Norostin, je crois que c'est surtout, disons, le sentiment de sécurité et de sûreté, disons, qui est celui que doit avoir l'Iran avec cet accord de longue durée, de grande perspective avec la Chine.
Monsieur Beur, vous venez d'entendre les explications de Monsieur Dortillier, de votre analyse de cette visite en Iran du ministre des Chinois des Affaires étrangères, s'il vous plaît.
Cela confirme la politique chinoise dans le cadre de sa... Excusez-moi, je m'entends. Ça confirme la politique chinoise, en réalité, de sa projection aujourd'hui au niveau international, et en particulier, ce qui est important pour elle, c'est les ressources énergétiques dont dont elle a besoin. Et évidemment, aujourd'hui, nous avons cette situation où le pétrole iranien est moins cher sur le marché et est quelque chose d'important pour Pékin. C'est pourquoi la présence aussi de la diplomatie chinoise aujourd'hui à très haut niveau, donc à Téhéran, marque que la Chine est bien décidée à faire valoir ses propres intérêts face aux politiques, évidemment, de sanctions et de blocus que veulent imposer les États-Unis et l'Occident en général, qui ne fait que suivre ce que Washington indique. Mais c'est d'une manière plus globale, puisque dans le cadre des nouvelles routes de la soie, qui est un des éléments importants pour la Chine, puisque pour la Chine en elle-même, elle se voit grandir avec sa consommation intérieure, grandir avec son groupe régional qu'elle vient de créer. Elle a aussi et encore besoin pour de nombreuses années de l'Europe et pour ses consommations et pour ses produits. Et ce pourquoi elle a besoin de ces routes de la soie. Et ces routes de la soie fait partie également l'Iran. Et dans le cadre du bloc eurasiatique, la Chine a besoin effectivement de partenaires économiques, de partenaires géopolitiques stables, et l'Iran en fait partie, ce pourquoi, pour conclure sur cette question, cette visite diplomatique n'est pour moi que la validation effectivement d'un partenariat à long terme, puisque les Chinois effectivement cherchent, comme tout État et toute économie, cherchent des partenaires stables et fiables sur le long terme. Et vu que l'Iran effectivement a besoin de trouver des partenaires, puisque l'Occident n'est pas fiable et ne respecte pas ses paroles, voire l'accord sur le nucléaire iranien, je pense que cela démontre une fois de plus qu'un bloc eurasiatique est en cours de création, et qui, si tant est qu'il y ait encore effectivement des relations économiques, à tout du moins politique au niveau international, il n'empêche qu'on voit bien que cette mondialisation aujourd'hui est en train de se recadrer au niveau continental, et ça ne fait que confirmer que le bloc eurasiatique effectivement est l'avenir pour non seulement pour la Chine, mais tout particulièrement pour l'Iran.
Monsieur de Dorsier, vous avez enfin entendu Monsieur Beur, cette visite en Iran du ministre chinois des Affaires étrangères s'interprète dans le cadre de cette projection des Chinoises en matière d'énergie. La Chine a besoin des ressources d'énergie, et sur ce point, la Chine peut compter sur l'Iran. La Chine fait l'objet des sanctions pro-occidentales pour y faire face à besoin de l'Iran. Et la Chine, pour mettre au point son projet important pour les autorités chinoises, c'est-à-dire la ceinture et la route de soie. Sur ce point également, la Chine a besoin d'un pays comme l'Iran. Monsieur Dortillier, vous l'avez dit tout à l'heure, que la présence chinoise en Iran va changer le rapport de force de l'Iran avec ses adversaires. Et Monsieur Dortillier, cette coopération avec l'Iran va changer également le rapport de force entre la Chine et ses adversaires également.
Oui, je crois qu'elle diminuera, en effet, M. Norostin, M. Bohr l'a dit implicitement, que l'agressivité, disons, des rapports entre, disons, la Chine et le monde extérieur, comme l'Iran et le monde extérieur, car il s'agit là d'une solidarité économique nécessaire, inévitable, entre ce qu'on appelait autrefois les blocs. On parle souvent de l'union, d'une union que les financiers voudraient faire du monde, etc. Bien sûr, il y a des rêveries de dictature financière dans le monde, c'est ça, ce qu'on appelle le mondialisme. Mais il y a également une réalité, cette réalité eurasiatique dont a parlé M. Bohr, que vous avez signalé aussi. Et cette réalité est plus forte, disons, on pourrait dire que les complotismes, que les décisions, disons, tenues par des grandes associations comme le Bilderberg ou autres. Là, nous avons affaire véritablement à des réalités économiques, des réalités nationales, des réalités, disons, intangibles. Vous savez, l'Europe et l'Asie ont toujours eu des relations depuis trop d'antiquité, mais disons, du point de vue culturel, y compris du point de vue humain. On peut dire que l'Asie est le berceau de l'Europe, dans un certain sens. Et donc, nous retrouvons ces réalités, nous retrouvons, disons, ces données permanentes. Et bien sûr, devant cela, tous les essais qui sont mesquins, disons, de sanctions, de chantage surtout, c'est le mot exact à mon avis, exercé sur l'Iran, sous prétexte d'armement atomique, sous prétexte de ceci, alors qu'aucun effort n'est fait de désarmement, ni localement, ni généralement dans le monde, il faut bien le reconnaître. C'est la grande différence, justement, avec la fin du XXe siècle. Le XXIe siècle ne parle plus du tout de désarmement. Et alors là, je pense que c'est la paix, disons, la paix qui est nécessaire aux humains, disons, ne peut passer que par des ressources ou des nécessités de relations économiques qui, elles, sont seules durables, et tandis que les chantages que nous avons connus jusqu'à présent, avec ces blocus, etc., qui sont des blocus presque d'affamement de l'Iran, si je peux dire, eh bien, vont disparaître, à mon avis, et ils vont disparaître parce qu'ils ne peuvent pas tenir devant les nécessités économiques, devant, disons, le besoin de vivre humain.
Monsieur Beor, en fait, dans le passé, la Chine n'était pas tellement intéressée par le fait d'avoir une présence active, dynamique au Moyen-Orient, et on avait même l'impression dans un certain temps, bien sûr dans le passé, que les Chinois avaient laissé en fait l'espace, le plein espace d'ailleurs, aux des Américains, aux États-Unis, dans la région du Moyen-Orient. La Chine a paraît-il, M. Beor, changé de politique, veut désormais être présente dans cette région importante et névralgique, une région qui est d'ailleurs le centre des activités énergétiques et même politiques dans le monde. Monsieur Beor, la Chine envisage, paraît-il, d'avoir en fait cette présence forte au Moyen-Orient. Sur ce point également, elle a besoin d'un pays important comme l'Iran, Monsieur Beor, n'est-ce pas?
La Chine en elle-même a toujours eu, dans son passé, n'a jamais eu une politique expansionniste. Elle a souvent même, si on remonte très très loin, effectivement, même construit une flotte, découvert et mis en relation certains pays, découvert certains pays africains pour elle, est allée jusqu'au Proche-Orient d'aujourd'hui, et elle s'est repliée sur elle-même, comme très souvent. Aujourd'hui, la Chine, qui veut reprendre sa place qui lui a été volée par les politiques néocoloniales d'il y a un peu plus de 100 ans, effectivement, veut retrouver sa place, mais tout en gardant sa politique non expansionniste. Mais elle a appris une chose, puisqu'elle apprend très vite, c'est qu'il faut être présent, effectivement, sur les terrains qui lui sont importants. Et le Proche-Orient d'aujourd'hui est un terrain important, comme vous l'avez précisé, en particulier pour le domaine énergétique qui lui est vital. Et donc, la Chine cherche des 100 vouloir intervenir militairement, elle montre quand même sa présence. Rappelons les exercices qu'elle a fait dans la région, l'exercice naval qu'elle a fait dans la région. Et puis, elle a aussi la base qu'elle a à Djibouti. Il ne faut pas non plus perdre de vue cet élément qui est important. Et aujourd'hui, dans le cadre de la confrontation mondiale qui se réchauffe, puisque la guerre froide n'a jamais été, on va dire, s'est jamais arrêtée, puisque les États-Unis n'ont pas compris que ce n'était pas une fin d'une période pour eux. Ils ont compris qu'ils avaient gagné, et donc ils ont continué à vouloir imposer leur système, ce qu'on a appelé aujourd'hui la mondialisation, dont on voit les limites, et les Chinois ont bien compris qu'il fallait faire bloc, et en particulier avec des partenaires qui respectent les contrats qui ont été faits, et surtout qui est gagnant-gagnant. Et dans ce cas présent, effectivement, les accords, si on ne parle que de la point de vue énergétique, c'est gagnant pour l'Iran, c'est gagnant pour Pékin. Mais dans ce cadre, effectivement, géopolitique mondiale, si on élargit un peu cela, on voit bien qu'il y a un axe non seulement qui était sur l'Afrique précédemment, qu'on voyait Russie, donc Moscou, Téhéran, et en Afrique, on voit un autre axe qui part de Pékin, qui passe par Téhéran et qui revient à Moscou dans ce bloc eurasiatique. Et c'est en cela que je pense que pour la Chine, il y a sa priorité intérieure, la priorité régionale ou pas, où elle ne se replie pas, puisqu'elle est sur une zone économique du sud-est asiatique qui représente quand même plus de 35% de l'économie mondiale, mais elle élargit cela en deuxième cercle, effectivement, au niveau continental eurasien, et l'Iran fait partie intégrale, évidemment, de ce bloc, pour la simple et bonne raison que c'est un pays, effectivement, qui fait face à l'Occident, et dont on sait très bien que aujourd'hui, l'Iran cherche, et bien évidemment, des partenaires stables pour faire face au blocus que l'Occident lui fait subir. Et la Chine n'intervenant pas, comme d'ailleurs la Russie, dans les affaires intérieures des États souverains, je pense que ce bloc eurasiatique a une certaine consistance et que les accords qui sont prêts à être signés, évidemment, ne sont pas simplement des accords sur papier, mais qu'ils ont un devenir, un avenir très grand et très long.
Monsieur Beurre, si je vous ai bien suivi, vous voulez dire que c'est un nouveau front qui est en train de s'ouvrir.
C'est un front dans tous les domaines, domaine économique, domaine pas de confrontation militaire, mais un peu de délimitation des frontières, on va dire, entre deux blocs, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus le bloc communiste, plus le bloc occidental et les non-alignés. C'est vraiment l'impérialisme américain face au reste du pays du monde. C'est les États qui veulent simplement rester souverains et décider de leur politique face à un pays, à une mentalité occidentale qui pense qu'ils peuvent encore donner des leçons et guider le monde, comme disait M. Biden. Donc oui, je pense bien que ce n'est pas simplement des accords économiques, mais c'est bien des accords géopolitiques d'une manière plus globale, même si Moscou effectivement est plus engagé géopolitiquement et veut donner une consistance vraiment politique à cet ensemble eurasiatique, je pense que Pékin, qui n'avait pas cette volonté au départ par rapport à ce que je vous ai indiqué en premier lieu, à savoir de sa tradition qui n'a jamais été expansionniste, même plutôt isolationniste, aujourd'hui, elle a bien compris qu'elle devait franchir le pas, et on le voit bien, puisque dans le domaine financier, bancaire, et monétaire, et aujourd'hui, effectivement, économique, énergétique et militaire, il y a bien quand même quelque chose qui se passe entre Pékin, Beijing et Moscou, et bien évidemment Téhéran, qui pour moi fait partie de cet axe eurasiatique, afin contenir justement l'intervention et l'ingérence américaine et occidentale dans cet ensemble qui, demain, sera le centre du monde.
Monsieur Dortiguet, vous avez suivi, tout comme moi d'ailleurs, Monsieur Beurre, il s'agit de là, pour reprendre l'expression de Monsieur Beurre, d'un axe bien élargi qui comprend l'Iran, la Chine, la Russie, plusieurs pays des Africains et plusieurs autres pays qui ont comme objectif désormais de contenir l'ingérence, si vous voulez, du bloc occidental dans cette région, dans cet ensemble qui va être demain le centre du monde.
Oui, en effet, il s'agit là, d'après l'expression heureuse de M. Bohr, bien sûr, il a parlé des deux cercles, vous savez, et je crois que c'est une... comment dirais-je? C'est la recherche, c'est le pas de la recherche, c'est l'affirmation de notre centre de gravité qui correspond à la réalité. Tandis que nous voyons disparaître ou s'effacer, ou nous le verrons, disons, on peut le dire avec certitude, la politique coloniale, bien sûr, du 19e siècle, celle à laquelle M. Gore vous-même avez fait allusion, à savoir la politique, vous savez, de la canonnière, la politique contre la Chine, etc., la politique d'expansion, elle est maintenue par les Américains avec une certaine, disons, idéologie, peut-on dire, ou les messianistes, pour employer ce terme, vous voyez, se présentant comme l'axe du bien et l'autre étant, disons, ou le moins bien ou l'axe du mal, voilà. Tout ceci, ce dualisme-là, doit s'effondrer, qui a conduit aux guerres que nous connaissons, en Irak, partout, doit être abandonné. Il tombera de lui-même devant le poids humain, technologique, et, disons, le poids national, c'est-à-dire que ce sont des civilisations, voyez-vous, qui vont s'unir et se retrouver comme elle était autrefois, il y a des siècles, contre justement des entreprises qu'on dit mondiales, mais qui en réalité, avec les États-Unis et surtout la Grande-Bretagne au départ, des entreprises artificielles. qui ne pouvait durer justement que le temps d'une intimidation. Ce temps de l'intimidation est terminé, et nous sommes fiers et heureux d'ailleurs, même en Europe. En Europe, parce que en Europe, il y a une partie de l'Europe qui n'a jamais accepté non plus ce genre de choses, voyez-vous, mais qui a eu des porte-voix, bien sûr. Nous parlons du général de Gaulle et d'autres personnes, mais ces voix ont été recouvertes aujourd'hui, voyez-vous. Nous sommes malheureusement trop soumis, nous sommes devenus soumis justement à cet impérialisme qui finalement, anglo-américain, qui doit bien sûr disparaître un peu comme, je ne sais pas, mon image peut être naïve, mais un peu comme le soleil le matin, comme l'aube qui peut disparaître à la nuit. Voilà. C'est cette nuit du colonialisme, à notre avis, qui cède devant l'aube. Voilà. Je pense que cette image-là, à mon avis, est une image qui montre l'irréversibilité de cette politique chinoise, russe et disons, eurasiatique en général.
Alors, vous voulez dire, M. Dortiguet, même en Europe, il y a des voix qui s'élèvent, si vous voulez, contre cette ingérence anglo-américaine?
Bien sûr, vous savez, je ne vais pas aller polémiquer, mais enfin, tout le monde sait que l'Allemagne est un pays occupé, est devenue la vache à lait un peu du reste de l'Europe, que de nombreux États, de nombreux industriels, disons, reconnaissent, disons, cet état de suggestion qu'a l'Europe envers une idéologie qui ne correspond pas à sa culture, ni même, je dirais, à son origine. Vous savez, nous savons, les rapports entre l'Europe et l'Asie étaient très profonds autrefois. Ils ont été profonds dans la pensée, ils ont été profonds dans les échanges économiques, ils ont été profonds, comme vous savez, à l'Iran, déjà depuis le 17e, 18e siècle chez nous. Et malheureusement, les deux guerres mondiales ont été un suicide de l'Europe, il faut le dire. La guerre de 14 et la guerre de 40. Et donc aujourd'hui, nous espérons que cette phase est terminée. Et donc pour nous, c'est l'amorce, disons, d'un renouveau de la culture européenne. Et je pense que ceci n'est pas pour demain, mais nous voyons déjà la voie s'ouvrir. Et grâce à vous, vous savez, des pays comme la Chine, des pays comme l'Iran ont été exaltés au 18e, 19e siècle, vous savez. Et aujourd'hui, bien sûr, ils sont représentés avec des caricatures, voyez, caricatures qui viennent de la presse, ça ne vient pas de la pensée, ça vient d'un mauvais journalisme, voyez-vous. Et bien sûr, tout ceci, à notre avis, doit disparaître devant les nécessités économiques.
Merci beaucoup. Merci infiniment, M. Pierre Dortiguet, philosophe français spécialiste des questions internationales, d'avoir été pour cette émission avec moi depuis Toulouse. Mes vifs remerciements vont également à Fabrice Beurre, analyste politique et spécialiste des questions internationales, qui a été avec moi pour cette émission depuis Moscou. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis. À très bientôt.
L'idéologie et la pratique des courants takfiristes. Des enfants, certains âgés, de moins de 11 ans, ont été décapités dans la province mozambicaine de Cabo Delgado. L'organisation non gouvernementale Save the Children, qui dénonce les exactions, a recueilli sur place les témoignages des familles endeuillées, au cœur d'un conflit meurtrier qui ravage la région depuis 2017. Les attaques contre des enfants dont font état les rapports nous rendent malades jusqu'à la moelle, a déclaré Chance Briggs, directeur de l'ONG Save the Children au Mozambique, mardi 16 mars. Une déclaration qui fait suite aux témoignages rapportés par les membres de leur équipe présente sur place et qui fait état de décapitations d'enfants à Cabo Delgado, au nord-est du pays. Une équipe émue aux larmes à l'écoute de la souffrance des mères. Cette violence doit cesser et les familles déplacées doivent être soutenues pour trouver leur repère et se remettre du traumatisme, a appelé Chance Briggs. Si elle est particulièrement choquante, L'information n'est pas nouvelle. Il y a eu des meurtres d'enfants depuis le début du conflit. Ce n'est pas une surprise, se désole David Matsiné, chercheur Amnesty International pour le Mozambique, en soulignant que ce que nous savons des crimes commis dans cette région est une goutte d'eau dans l'océan. La province de Cabo Delgado, à la frontière de la Tanzanie, où ont été perpétrées les atrocités, est frappée depuis octobre 2017 par les attaques des groupes takfiristes commises par un groupe local, Ansar al-Sunna, affilié à Daesh, aussi connu sous le nom de Al-Shabaab et rebaptisé récemment Daesh Mozambique par les États-Unis. Plus de 2600 personnes, dont 1312 civils, ont trouvé la mort dans le conflit qui fait rage à Cabo Delgado. En 2020 uniquement, 570 incidents violents, incendies, pillages, meurtres de villageois à coups de machette et maintenant décapitations d'enfants ont été enregistrés dans le pays par le projet de collecte de données, d'analyse et de catastrophes des crises. La situation, qui s'est encore détériorée au cours des 12 derniers mois, a aussi entraîné une augmentation spectaculaire des déplacements de population au sein du pays. Ils sont plus de 670 000 à avoir fui leur maison, soit 7 fois plus qu'il y a un an. Le Mozambique, qui fait partie des pays les plus pauvres du monde, en plus d'être le terrain de violents conflits armés, a été confronté à des sécheresses cycliques, de sévères inondations et 2 épisodes cycloniques majeurs qui se sont succédés en 2019. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'Organisation des Nations Unies rapporte que 36% des installations sanitaires de la province de Cabo Delgado ont été endommagées ou détruites et que de nombreuses villes n'ont plus une seule clinique fonctionnelle. Les organisations humanitaires, confrontées à un contexte particulièrement insécuritaire, se voient grandement limitées dans leur capacité d'intervention dans les régions les plus touchées. Le gouvernement fait tout pour que les journalistes ne puissent pas se rendre dans la région, empêchant du même fait une vraie réponse humanitaire. De nombreuses plaintes sont émises contre l'armée. Il n'est pas étonnant qu'il ne veut pas qu'ils aillent voir, dénonce David Matsiné, en référence à un rapport de l'ONG Amnesty International, publié en mars 2021. L'ensemble des parties prenantes du conflit, le groupe takfiriste Ansar al-Sunna, mais aussi les troupes de l'armée, ainsi qu'une société de sécurité privée, y sont accusés de violations de droit humanitaire international, dont des crimes de guerre. Lundi 15 mars 2021, l'ambassade américaine du Mozambique a annoncé le lancement d'un programme de coopération militaire de 2 mois avec l'armée mozambicaine afin de former leurs militaires, comptant ainsi soutenir les efforts du pays pour empêcher la propagation du terrorisme et l'extrémisme violent, d'après un communiqué de l'ambassade des États-Unis. Pour David Matsiné, le respect des droits humains doit être au cœur de cette formation. C'est un premier pas indispensable, même si la guerre ne peut pas et ne doit pas être la seule réponse. En attendant, l'Organisation des Nations Unies estime que 1,3 million de personnes prises au piège d'un conflit qui ne semble pas connaître d'issue à court terme ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Au moins 31 soldats maliens ont été tués dans le nord-est du pays, lundi 15 mars, dans l'attaque la plus meurtrière attribuée à des takfiristes contre les forces maliennes cette année, selon un nouveau bilan obtenu de sources militaires et locales. Un précédent décompte de l'état-major faisait état de 11 morts, 11 disparus et 14 blessés. Ce bilan n'a cessé de s'aggraver depuis un premier communiqué, plusieurs heures après l'attaque menée en milieu de la journée contre la relève du poste de Tessit au sud-ouest d'Ansongo, près des frontières avec le Burkina Faso et le Niger. Il pourrait s'alourdir encore, d'autres sources citant des pertes encore plus grandes dans les rangs de l'armée, qui a vu des centaines de ses hommes mourir de la sorte ces dernières années. La relève est tombée dans une embuscade tendue par une centaine d'hommes à bord de pick-up et sur des motos, selon un récit fait antérieurement par l'armée sur les réseaux sociaux. Le nouveau bilan est de 31 militaires maliens tués. Les blessés ont été transportés à Gao pour les soins, a indiqué à l'agence France-Presse un commandant local s'exprimant sous le couvert de l'anonymat en raison de ses contraintes hiérarchiques. Dans les rangs des terroristes, on a retrouvé 13 morts sur le terrain et ils sont repartis avec d'autres corps. Un document officiel que l'agence France-Presse a consulté rapporte 33 morts et 14 blessés. Un élu local a évoqué sous le sceau de l'anonymat 34 soldats tués. Thank you.